Dans un instant, vous allez écouter un très beau témoignage. Nous vous informons également que vous pouvez écouter gracieusement des centaines de témoignages et de prédications puissantes sur notre site internet www.fmespoir.fr. N'hésitez pas à nous appeler si besoin, composez-le 05 96 52 64 17. Toute l'équipe de Radio FM Espoir vous souhaite une bonne écoute. Soyez bénis.
Alors ce soir nous recevons un frère, il est super bien, super gentil, il est déjà avec nous ce soir. Bonjour, bonsoir mon frère.
Bonsoir, bonsoir.
Comment vas-tu?
Bien que la grâce de Dieu.
D'accord, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie.
Amen.
Alors ton nom, prénom?
Alors je me présente, Moderne Bruno.
Moderne Bruno.
Voilà, Moderne Bruno.
Famille moderne.
Famille moderne. Ouais, ouais. Surtout concentré vers le Morne Rouge.
Ah ouais.
Voilà.
Ouais.
Et puis bon, moi plus de Fort-de-France.
D'accord. T'entends plus de Fort-de-France. Donc tu es originaire du Morne Rouge.
Alors mais, ma famille, la famille concentrée, la plupart des modernes sont sous le Morne Rouge. Mm-hmm. Et puis bon, après il y en a qui partent un peu partout dans les communes. Donc moi je me suis retrouvé, enfin mon père s'est retrouvé sur Fort-de-France. Donc moi je suis né à Fort-de-France.
Et tu préfères Fort-de-France par rapport au Morne Rouge?
Alors, comme j'ai pas vraiment connu, parce que mon enfance petit, tout c'était Fort-de-France, hein. C'était très rare lors des occasions de repas familiaux où je me retrouvais au Morne Rouge, je côtoyais les cousins, tout ça. Ah ouais. Après, c'est vrai que je garde encore de très bons souvenirs de cet esprit de famille, de la famille des cousins, tout ça, des moments passés.
D'accord.
La jeunesse.
Toute ta jeunesse, ça a été, c'est du Fort-de-France ou monde?
Alors,
ta jeunesse même.
Alors, non. Alors, la plupart de ma jeunesse était sous Fort-de-France.
Oui. Comme tu as dit.
Et puis j'ai bercé aussi sur le Vauclin, puisqu'on avait une maison de vacances là-bas. Donc, pratiquement toute mon adolescence était à la baie des Mulets au Vauclin.
Oui, autrement, on va dire Vauclin, Morne Rouge,
Fort-de-France.
Une belle enfance?
Très belle enfance.
D'accord.
Voilà.
Papa, maman, ils étaient comment?
Alors, papa, maman, c'était, comment dirais-je?
Déjà formidable. Hein?
C'était déjà formidable, vraiment, une éducation.
Ah ouais.
C'est vrai qu'on pourrait dire qu'est-ce qui pourrait venir de bon du quartier de Volga. Mais il y a moi.
Ouais,
Volga. Bon, lorsqu'on a reçu l'éducation, quel que soit, même si on est dans un quartier aussi difficile soit-il, mais lorsqu'on reçoit l'éducation et on fonctionne avec cette éducation, je m'excuse de le dire, mais c'est vrai qu'il y a une certaine mise à part.
Parce que Volga Plage traîne
une
réputation incroyable.
Ah non,
jusqu'à je suis né, j'ai trouvé ça comme ça.
Ah ben oui, moi, je suis né là, enfant là, j'étais bercé là.
Oui.
Et mais je pourrais dire que malgré ce qui était dit de Volga, je garde quand même de bons souvenirs de Volga, parce que c'est vrai que l'époque, il y avait encore de l'amour entre voisins, même si c'était un quartier difficile, mais c'est plus ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui.
D'accord. Donc, de nos jours, on peut dire que Volga et les autres communes de Martinique, les autres coins de Martinique, c'est presque pareil, parce qu'on tue des gens partout,
en ce moment, Martinique. Malheureusement, c'est ça.
Alors, nous sommes contents de t'avoir ici à la radio. Ça me fait plaisir de t'avoir, parce que j'ai toujours souhaité t'avoir ici avec nous à Radio FM Soir. C'est un plaisir de te recevoir pour ton témoignage, parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole, le témoignage, et c'était toujours bien de témoigner ce que Dieu a fait pour nous.
Oui.
Et c'est aussi une grande victoire, parce que parfois nous avons beaucoup souffert dans notre vie, et les chemins par lesquels nous sommes passés parfois, ça peut aider d'autres personnes qui nous écoutent, qui traversent parfois les mêmes choses que nous, qui ne comprennent pas comment s'en sortir.
C'est en
écoutant peut-être ton témoignage ou le mien, la personne peut s'en rendre compte que tiens, si Dieu a pu faire ça pour cette personne-là,
il est capable de faire pour moi.
Voilà, j'en parle avec un ami qui a connu des moments difficiles et il a été converti par l'histoire de Job, par la souffrance de Job.
C'est ça.
Et il a dit que si Dieu a pu, Job a pu tenir ferme en passant par là, je tiendrai ferme aussi et Dieu me délivrera. Donc il est toujours bon de témoigner.
C'est ça.
Alors, quels sont les faits marquants de ton enfance, Bruno?
Alors, les faits marqués de mon enfance, comme je dis, je pourrais dire que du bonheur.
Ah oui.
De mon enfance, vraiment, c'est pour ça que je dis que comment c'est important. C'était un exemple pour moi, pour l'équilibre de nos enfants, comment c'est important d'être une famille soudée et une famille aussi perpétrant les valeurs, les bonnes valeurs spirituelles, les valeurs de la vie. Et c'est ce justement dont j'ai bercé durant mon enfance, dans l'amour de mes parents. Et puis, une éducation spirituelle, puisque très tôt, j'ai ressenti cet appel. Hein, très tôt.
Très tôt, c'est vers quel âge?
Alors, je pourrais dire que je suis entré au Seigneur, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans. Mais depuis l'âge de mes 19-10 ans, je lisais déjà la Bible, j'étais déjà attiré par la Bible, j'étais déjà attiré par les histoires de la Bible.
Ah, oui.
Et voilà, donc je crois que Dieu mettait déjà un amour pour moi de sa présence.
Ah. Est-ce que tes parents étaient des chrétiens engagés à cette époque-là?
Est-ce que
tes parents étaient des chrétiens engagés?
Alors, engagés à l'époque, ben, quand je pourrais dire qu'à l'époque, mes parents ils étaient catholiques.
Oui.
Donc,
oui.
Bon, j'ai mes soeurs qui ont été guides.
Pas de problème.
Qui ont été guides à l'époque. Bon, moi, je suivais un petit peu avec mes soeurs. Voilà, j'étais pas. Je veux dire que, voilà, on vivait, mais vraiment dans de bonnes conditions, spirituellement parlant, avec la présence de Dieu, et puis aussi dans l'amour. Parce que c'est vrai que mes parents nous inculquaient beaucoup l'amour entre nous, entre frères et sœurs.
D'accord. Est-ce que tu pourras retirer le micro un peu devant, et pousser un peu devant, et puis redresser un peu.
Okay.
Redresser le micro, redresser. Voilà. Voilà.
C'est
ok, c'est
ça.
Super.
Okay.
D'accord.
Okay.
Donc tu disais que tes parents étaient catholiques, mais catholiques pratiquants, ou alors, souvent dit non pratiquants.
Oui, alors. Pratiquant, voilà, on va dire que, voilà.
Ouais.
Pratiquant, comment dire, pratiquant pourtant, bon, en ayant quand même en ayant quand même quelque chose pour Dieu, un amour pour Dieu.
Oui.
En tout cas,
oui.
Le dimanche, tous les dimanches, il fallait être à l'église de Saint-Dirès.
Clair. Et puis une bonne éducation quand même.
Voilà.
D'accord, ok.
C'était ça. Et puis, c'est en grandissant que j'ai ma sœur aînée.
Mm-hmm.
Qui a fait cette expérience, qui a fait cette rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu.
Mm-hmm.
Et puis, je crois qu'elle a emmené tout le monde. Elle a emmené toute la famille, justement, à l'évangile.
Ta maman aussi?
Tout le monde.
Tout le monde.
Ma
sœur
aînée. Ma sœur, papa, tout. Voilà, ma sœur aînée.
Elle était passionnée, elle était très aînée.
Oui, elle était passionnée. Elle était passionnée parce que là où vraiment, comme je pourrais dire, je crois que ce qui a surtout. Peser dans la balance,
mm-hmm.
c'est que à cette époque,
mm-hmm.
Son mari était malade,
mm-hmm.
son époux était malade, il avait un cancer généralisé de la moelle épinière,
ah bon?
Donc on ne comptait plus
oui.
sur lui. Et voilà que ma sœur, c'est comme ça qu'elle a fait cette rencontre avec Dieu, puisqu'elle était dans le désespoir.
Ah oui.
Et puis elle s'est donnée à Christ, elle est passée par les eaux du baptême, et puis elle est restée dans le combat, elle criait à Dieu pour son époux, et puis je crois que quand la main de Dieu est passée sur le corps de son époux, parce qu'il partait sur la métropole et le médecin avait dit à ma sœur, écoutez, là il part, mais sachez qu'il reviendra entre quatre planches. Préparez-vous déjà pour cela, préparez tout ce qu'il y a préparé. Et ma sœur a refusé. Elle a dit non, je refuse. Même si, et je vous dis, un cancer généralisé de la moelle épinière.
Oui.
Donc,
oui.
C'est le cancer le plus difficile.
Le plus radical.
Le plus radical.
Ouais.
Et voilà que. Eh ben, le Dieu de tout est possible. Je dirais même pas le Dieu de l'impossible, je dis le Dieu de tout est possible.
Oui.
Eh ben, il est intervenu. Il a fait son entrée. Et voilà que, les médecins de la métropole qui appellent, qui disent, mais on comprend pas, c'est pas comme, il n'est pas un cancer, on fait les radios, on voit rien, le cancer a disparu. Le cancer a disparu. Et je peux vous dire, à ce jour, depuis, ça fait déjà, à ce jour, il est encore en vie et pas de cancer, quoi que ce soit, le Seigneur.
Incroyable.
Alors, je crois que, ça pesait beaucoup sur la balance. Quand mes parents ont vu la puissance de Dieu manifester, je crois que c'est alors que le Seigneur a ouvert une porte pour toute la famille et puis que nous y sommes rentrés.
Alors ça veut dire que le mari est là jusqu'à maintenant?
Jusqu'à maintenant, oui.
Oui.
Et vraiment, c'est une grâce de Dieu.
Ah ouais,
c'est
incroyable ça.
Alors c'est ce que je dis, c'était le point de départ.
Oui.
C'était
et toute la famille a été touchée, bouleversée par
toute
tout
ça. Toute la famille. C'est un témoignage très fort.
Ah ouais.
Et on a compris que voilà.
Que Dieu est.
Voilà. Donc,
vous êtes tous engagés par les eaux du baptême.
Voilà. Alors, on s'est tous engagés par les eaux du baptême. Bon, moi, dès l'âge, je crois, 19, 20 ans, je me suis engagé.
Mmh.
Mais c'est vrai que j'ai mené une vie chrétienne, mais en quinconce.
Mmh.
Un coup dans le monde, un coup avec Dieu, un coup. On est jeune, vous savez. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, jeune, tu vois, des comptes quand même.
Oui.
C'est vrai. Mais c'est vrai que je pourrais dire que j'avais une vie en quinconce. Ma relation était en quinconce avec Dieu.
C'est comme les montagnes mouillées.
Voilà, c'est ça.
Mais
je
aussi.
Savais que Dieu, voilà, j'avais pris cet engagement. Je savais que Dieu était là et puis voilà, je vivais, voilà. Mais néanmoins, même quand j'étais en bas de la montagne, je savais que Dieu était là et je priais quand même. Mm-hmm. Je priais quand même, même si j'étais happé par le monde, par les choses du monde. Mm-hmm. Mais je m'accrochais quand même à Dieu. Il n'avait pas disparu de ma vie.
Oui.
Voilà, il était là. Et c'est vrai que j'ai durant tout ce temps, en grandissant, Dieu prenait de plus en plus de place parce que j'ai eu à traverser des épreuves.
Mm-hmm.
Des épreuves.
Oui.
Et toutes les fois où j'ai eu à passer ces épreuves, parce que là, je deviens adolescent, je deviens un peu plus grand, j'habite Volga, donc veut dire petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème.
Oui, voilà.
Donc,
oui.
Alors, à ce moment-là, malgré l'éducation que j'ai reçue de mes parents, on grandit, on veut s'affirmer, on côtoie les jeunes de Volga, on entre maintenant dans une sorte de spirale.
Est-ce que tu as connu les bagarres, tout ça?
Ah, oui, j'ai connu tout ça. Hein. J'ai connu.
Uh-huh.
Et puis, voilà, le Seigneur vraiment... A fait que malgré cela, il m'épargnait. Je voyais la main de Dieu. Voyais la main de Dieu. Et c'est de là qu'à un moment donné, donc j'avais mon deuxième beau-frère qui était entraîneur de boxe. Et il me dit, Bruno, écoute, je t'amène, il faut que tu pratiques, je vois que tu peux, et voilà. Et voilà que je prends cette branche.
Mm-hmm. La boxe
anglaise.
Et la boxe anglaise en plus.
La boxe anglaise, voilà. Donc,
ça veut dire que la boxe anglaise, il y a les coups de pied dedans, je crois.
Non, c'est la française et boxe thaï et française qui ont les pieds.
Ah,
boxe
d'accord.
Anglaise, c'est des points comme Mike Tyson, comme autres. Voilà. Et voilà qu'il m'est arrivé une expérience très grande. C'est que durant tout ce parcours, en faisant de la boxe aussi, je pourrais dire que après combien de combats, une seule fois j'ai eu un KO et à chaque fois je gagnais, c'est le seul KO que j'ai eu. Et quand je me suis remis en selle après ce KO, il m'est arrivé quelque chose, une expérience sur la métropole, une expérience qui m'a marqué, je pourrais dire à vie. Et je crois que quand je me suis lors d'un combat, j'ai frappé si fort que le gars, il a perdu la boule, enfin, et je crois que mon cœur s'est déchiré quand j'ai vu ça. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas conçu pour ça.
Ah ouais,
tu ne m'as pas conçu pour que je puisse voir ce que je vois là.
Ah ouais.
Et puis j'ai dit, je jette l'éponge, je ne veux plus entendre parler de ça encore.
Plus de boxe.
Et pourtant, j'étais deux fois champion de France. J'étais passé à l'époque avec Camille Alexandre sur RFO, tout ça, médaille, enfin tout.
Deux fois champion de France.
J'ai toutes les coupes, les médailles, tout ça. Et donc je continue ma vie et voilà que, chemin faisant, le Seigneur prend encore plus de place. Plus de place. Parce qu'il y a une chose que je pourrais dire aussi, une chose très importante, c'est que j'avais une mère qui priait énormément pour moi.
Oui.
Et aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce aux prières des parents. Et c'est pour ça que je dis aux parents, priez pour vos enfants.
Mm-hmm.
Ne dites pas que, ah ouais, il grandit, le voir juste grandir, parce que je crois que nous aurons des comptes à rendre à Dieu.
Oui.
Parce qu'il y a un nécessaire, on doit relâcher des bénédictions dans la vie, chaque jour dans la vie de nos enfants. Et je crois que c'est à travers tout ce que ma mère, aujourd'hui, tout ce que ma mère a pu relâcher dans ma vie comme parole de bénédiction, qui aujourd'hui, moi, papa et papy, voilà, je suis là et je relâche aussi sur mes enfants toutes ces bénédictions.
Et sur tes petits-enfants.
Et mes petits-enfants aussi.
Ah, d'accord, ok. Donc, tu es parti entre-temps en métropole, si j'ai bien compris.
Je partais en métropole juste pour les compétitions.
Oui.
D'accord, et je revenais, pourtant, j'ai plusieurs propositions qui ont été faites pour que je puisse partir sur la métropole, mais Dieu ne voulait pas. Je ne partais pas, je restais ici en Martinique.
Mmh.
Et puis voilà, j'ai eu ma fille, ma grande fille, tout ça. Je m'en suis occupé. Et puis j'ai travaillé. Puis en cherchant toujours à vouloir faire les choses convenablement, je me suis marié. Mais bon, des fois on se marie et on pense que c'est la bonne personne. Mais bon, voilà.
D'accord. Ça veut dire qu'il y a eu un moment, de séparation. Donc.
Voilà, il y a eu un moment de séparation. Il y a eu un moment de séparation et je peux vous dire que quand on fait vraiment confiance à Dieu, je vous dis vraiment, au jour d'aujourd'hui, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie et, et la grande chose qu'il avait commencé et qu'il n'a pas terminé, puisque je suis toujours là, c'est qu'il n'a pas terminé la grande chose qu'il a commencé avec moi. Mais je lui serai éternellement reconnaissant parce que quand je vois à un moment donné, donc je me suis La mère de mon fils et moi, on s'est séparés, divorce et ça, et y a un serviteur qui me dit, tu sais, tu pourras plus refaire ta vie, c'est surtout retourner avec ta femme. J'ai dit, ouh! Alors que, voilà, on était à divorcer et tout, c'est elle qui avait demandé le divorce ou ça, donc, j'ai dit, Seigneur, bon, voilà. Et je peux vous dire que, pourquoi je parle de ça? Parce que je veux vraiment glorifier mon Dieu.
Oui.
Le Dieu de ma bénédiction, le Dieu qui nous bénit chaque jour lorsque nous sommes sensibles à sa présence et lorsque nous lui donnons toute la place. Et voilà que je dis, Seigneur, alors je vais me retrouver vieux garçon, je ne peux pas refaire ma vie, si je suis coincé, je parle comme ça à Dieu, je dis, mais Seigneur, je suis encore jeune. Et voilà que...
On t'a dit que c'est plus possible.
On me dit que c'est plus possible. Je vais voir deux, trois serviteurs, me disent, mon fils, c'est surtout toi avec ta femme, ou bien sinon, tu es obligé de rester comme je suis.
Ouais, ouais.
Voilà. Jusqu'à ce que moi arrive. Et voilà qu'un jour, je vais un vendredi soir. J'ai toujours rappelé ça. Je vais au culte. Et je me mettais au premier banc et j'étais là. Je bénissais Dieu. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, j'étais célibataire, hein. J'étais célibataire. Ça fait presque un an et puis, j'étais célibataire. L'Esprit de Dieu me dit, écoute, tu ne l'as pas encore vue, mais bénis la femme que j'ai pour toi. Alors, je dis, Seigneur, je bénis la femme que tu as pour moi. Il me manque une cote. Il y a bien quelqu'un qui porte ma cote.
Qui a été taillé pour toi.
Je la bénis. Je la bénis. Et voilà que je dis ça. Je dis ça. Et tout d'un coup, j'ai eu quelque chose. J'ai vécu quelque chose de très fort. Je vois que, comme si que je sors de mon corps. Je sors de mon corps. Et devant moi, je vois un trait blanc. Et qui sort du sol, qui monte au plafond. Et ce jour-là, il y avait une réunion avec plein de personnes. Et ça va au fond. Au fond, et je vois une femme. Alors, je me retourne pour voir, je vois cette femme. Et après, je reviens dans mon corps.
Ah oui.
Alors, quand je reviens dans mon corps, donc, j'essaie de revisualiser ce trait blanc-là. Et je vois une femme au fond, tranquillement.
Ah, oui.
Qui vient pour la première fois. Et voilà que je reformule encore, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, en tout cas, je bénis la femme. Je ne recherchais pas de femme. Je dis, Seigneur, tu me donneras celle dont tu as préparée pour moi.
Oui.
Et je ressens encore une deuxième fois, et encore se reproduit. Alors, je dis, mais c'est bizarre, c'est qui cette femme-là? Et voilà que, eh bien, je peux dire, hein, le Seigneur m'a montré cette femme-là. Je ne la connaissais du tout pas. On s'est fréquenté deux mois. Mais quand je dis fréquenter, juste ma soeur, écoute, le Seigneur m'a montré, elle-même me dit, je sais pas, je sortais du culte, le Seigneur me dit, je te montre ton mari, quand elle m'a vu, elle a failli faire un accident avec la voiture, pendant qu'elle conduisait. Et voilà que, lorsqu'on se voyait pendant les deux mois, c'est qu'on se voyait, mais on partageait, on était content de se voir, mais on priait ensemble.
Oui.
Et au bout des deux mois, Dieu nous dit, voici la date de votre mariage.
Oui.
Quand Dieu me donne la date du mariage, je venais de perdre mon emploi, elle-même, elle ne travaillait pas. Je lui dis, mais Seigneur, mais attends, qu'est-ce que tu nous fais là? Les impôts finissent par passer contre l'an à zéro. Et tu me donnes déjà janvier, voilà. On sait qu'on est en novembre, décembre, janvier, mariage. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et je peux dire que, je peux vous dire vraiment, quand je me suis... J'ai plaidé, j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai pas d'argent, tu me parles de mariage, je pas qu'à faire sans l'argent et tout, machin. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu quelque chose comme ça. Par la foi, elle m'a dit, tu sais, Bruno, ce mariage se fera par la foi. Ne t'inquiète pas. J'ai dit, ben, ok, on est dans le même bateau, on s'embarque par la foi. On a fait les cartes de pour annoncer le mariage, tout ça. Dans la foi, sans un sou. On a fait les cartes sans un sou.
Les cartes d'invitation.
Et puis, je pourrais dire que quelques temps avant le mariage, j'avais mon père qui était Alzheimer et ma grande soeur qui me dit, ouais, je voudrais te voir pour qu'on puisse parler de papa parce que je m'occupais de lui. Et pendant que je monte dans la voiture, je vais en direction de la maison de ma soeur, je suis en train de babiller dans la voiture. Je dis, alors Seigneur, je vais me marier, j'ai même pas d'argent pour acheter une bague. Est-ce que c'est la galerie que j'irai mettre un euro dans le truc pour avoir une bague en plastique? Seigneur, c'est pas possible et tout. Et voilà que je discute avec ma soeur, puis je m'apprête à partir après la discussion. Je m'apprête à partir de chez elle. Elle me dit, ah, au fait, Bruno, je sais pas. Le Seigneur m'a envoyé à la banque au guichet, il m'a fait enlever un montant, donc il m'a dit de te donner, c'est pour ta bague. Quand elle m'a dit ça, je me suis mis dans la voiture. J'ai presque plus. J'ai dit, alors Seigneur, tu m'as laissé babiller de plus fort de force pour arriver jusqu'à 7 plus, que tu savais que tu allais me bénir. Et voilà. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que ce mariage-là, c'est la première fois que je vois ça. Les gens nous ont bénis avant ça. Je veux dire qu'on recevait des enveloppes de 100, de 50 euros comme ça. Que on ouais. a tout reçu
avant.
Avant. Parce que normalement, c'est quand tu arrives au mariage que tu mets la boîte plus haut et puis les gens viennent déposer. On a tout reçu avant.
Oui.
Et le Seigneur, et voilà que je rêvais de mariage d'une certaine manière, les pieds près de la plage et tout, un cadre magnifique.
Oui.
Et voilà que le Seigneur m'emmène dans ce cadre magnifique et cet homme qui est le propriétaire du restaurant m'a vu petit, il m'a dit, Bruno, je suis obligé de te bénir. J'ai dit, Seigneur, voilà encore, il m'a dit, Bruno, je me charge des boissons, je me charge de tout. Ne t'inquiète pas, j'ai dit, Seigneur, tu es en train de... Et je peux vous dire, hein, je n'ai pas honte de le dire, ce mariage est un mariage vraiment magnifique. Tout le monde, les gens ont dit vraiment, ils n'ont jamais vu un mariage aussi magnifique. On pensait qu'on avait tellement d'argent alors que c'est Dieu qui nous a bénis.
Ah, ouais, ouais.
Et ce que je voulais dire, c'est que je ne faisais pas d'enfant. Mmh. Après mon fils, je ne faisais plus d'enfant. Mmh. J'ai eu l'occasion de voir un urologue, tout ça m'a dit, c'est mort, c'est fini, Fifi et Nini.
Ah, ouais.
C'est le dernier enfant que vous avez, c'est votre fils, point barre.
Ouais.
Quand Dieu m'a donné mon épouse, ma bénédiction,
ah, ouais.
aïe, aïe, aïe. Quand Dieu m'a donné mon épouse, tout de suite, elle est tombée enceinte.
Ah.
Elle ne savait même pas. Je lui donnais des trucs pour le ventre en pensant que c'était et mal boudéni. Alors qu'elle était enceinte, elle ne savait même pas.
Ah,
derrière ça, le Seigneur nous donne encore une deuxième.
Ah, ouais. Ouais.
Le Seigneur m'a fait penser à Job, les bénédictions. Quand tu traverses le moment, quand tu t'accroches à Dieu, la bénédiction vient en multipliant. Et je vous dis, hein, ça fait aujourd'hui 14 ans que je suis marié. Les seules choses, le seul reproche que nous avons de nos voisins à Volga, ils nous disent rien qui bouge, autres nous qu'attendent.
Ah.
Mais quand ils disent ça, ils nous disent rien qui rit, autres qui rit, autres toujours dans la joie, nous pas jamais tant autres qui babillent dans
ah, ouais, ouais.
Et c'est un témoignage.
Amen.
C'est pour bon ça que témoignage. Je dis que quand tu attends que Dieu te donne ta personne, te donne ta bénédiction, tu vois la gloire de Dieu.
Ah ouais.
Et je peux vous dire que ça fait 14 ans que je suis avec mon épouse. Je suis amoureux de ma femme comme si que je venais de la rencontrer là à l'instant T.
D'accord.
Dieu a mis un amour entre nous.
D'accord.
Et un amour qui nous permet de nous respecter. Un amour qui nous permet vraiment de tenir bon et d'être l'homme que je suis aujourd'hui.
En dépit des circonstances.
En dépit des circonstances.
Et tu as connu un moment miraculeux de par... ça a commencé déjà par la guérison de ton beau-frère qui était quasiment mourant d'un cancer généralisé. L'homme avait déclaré que c'était fini pour lui, qu'il n'y avait pas de possibilité. Tu m'entends là déjà?
Oui, oui.
D'accord. Mais Dieu n'a décidé autrement.
Amen.
Alors, ça a continué par le biais de ton mariage.
Mm-hmm. Voilà.
Et puis tu as connu la case prison.
Voilà.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, sans oui. entrer dans trop de
sans
détails.
Trop de détails. Alors ce qui s'est passé, c'est que c'était le plan de Dieu.
Oui.
Parce que un mois avant, j'étais dans un séminaire et voilà que un serviteur de Dieu, Fred Chotel, m'avait prophétisé ça, me disant que Dieu m'enverra quelque part, un endroit où personne ne veut aller,
ah,
mais
oui.
de ne pas m'inquiéter qu'il sera avec moi.
Oui. Et tu étais loin de douter que c'était la prison là.
Ben. Alors ma femme qui est à côté, je lui dis mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors ma femme qui dit ben je crois qu'il parle de prison là. Alors je dis ah bon? Et ça aurait pu justement être un déclic pour que je ne puisse pas arriver à cette case prison. Mais comme c'est que Dieu a laissé un voile d'aveuglement pour que je puisse
passer par là. Oui.
Parce que c'était son plan et sa volonté.
Oui.
Il savait que il m'avait préparé. Psychologiquement
pour cela oui.
Et voilà que je survole, je me suis retrouvé mêlé dans une histoire de trafic de drogue.
Oui.
Mais j'explique bien hein, pourquoi les frères ne peuvent pas se dire mais comment tu sers Dieu, trafic de drogue, ça n'a aucun rapport. Voilà, parce que mais non, Dieu ne peut pas concevoir cela, c'est pas possible.
Ah.
Alors j'explique, c'est que en fait je devais juste j'avais un projet sur la Guyane.
Oui.
Et voilà que il y a un homme qui voulait je ne trouvais pas de financement partout.
Oui.
Où c'était quelque chose de viable, mais en allant dans les banques, toutes les banques me fermaient la porte, me disant
il n'y avait pas d'argent.
Je ne suis pas monsieur Ayotte.
Vous n'êtes pas viable.
Je ne suis pas viable. Alors, et voilà, donc, dans mon désespoir, j'ai un ami qui me dit mais je peux te présenter un gars, il a les finances, un repenti, il n'est plus dans ça, mais il a l'argent et tout, il veut faire son argent travailler.
Ah, ouais.
Alors, en temps normal, Un bookmaker. Alors, en temps normal, je devrais dire non.
Oui.
Voilà. Mais on est un peu comme celui qui. Comment dirais-je? Comme la personne qui sent qu'aujourd'hui En allant au casino, il va gagner, il va, voilà, ouais. le sentiment qu'ont certains joueurs, tu te dis, mais non, mais tu as perdu de l'argent, mais le gars, il te dit, mais non, mais je sens que ça va marcher, ça,
on y croit.
Voilà. Alors, je dis, mais bon, ok, j'y crois, je fais abstraction de ce que, histoire de ce que, là où la provenance de l'argent, je fais abstraction de cela, mon projet est viable et voilà. Et voilà que cet homme passe les sous. Et donc j'avais un associé avec moi, donc il m'a passé les sous, donc c'est moi qui suis allé, qui me suis engagé plus ou moins, j'ai récupéré les sous, et puis voilà que quand j'ai donné les sous à mon associé partait dans la semaine, partait voyager dans un voyage avec son épouse, un voyage familial, et il me disait, ne t'inquiète pas, je reviens à mon retour, je pars pour une semaine, je reviens, t'inquiète pas, on fait le nécessaire. Ouais. Et je vois une semaine passe, deux semaines, un mois, enfin bon, pas de nouvelles. Et entre-temps, je reçois des coups de fil, il me dit, bon, qu'est-ce qu'il en est, alors, on est à quel point, où est mon argent, qu'est-ce qu'on fait avec mon argent?
Ah oui.
Et je lui dis, ben, normalement, le confrère qui s'en occupe,
il est parti,
mais il revient, ne pas s'inquiéter. Et je vois que les mois passent, presque six mois, et pas de nouvelles du collègue à qui j'ai remis la mallette. Et je peux vous dire que c'est une très grosse somme.
Mallette d'argent.
Et voilà que, donc, cet homme inquiet pour son argent commence à me menacer.
Ah oui.
Donc, je commence à voir des gens venir
près
de chez moi, fusil en main, menaçant. Enfin, voilà, j'ai subi toutes ces pressions. Mm-hmm. Mais Dieu est avec moi. Je pourrais dire que Dieu est avec moi. Parce que toutes les personnes...
Ça
aurait pu finir mal.
Toutes surtout les personnes, de nos jours, là.
Mais de nos jours.
Ouais.
Et toutes les personnes qui l'envoyaient, quand ils venaient, dire ah, Chabin, c'est OK là. Maintenant, on sent bon bouc. Maintenant, frère, maintenant, c'est pas fort ça. La main de Dieu.
Ouais, ouais.
Vraiment.
Ouais. Et voilà. Parce que ça n'égole pas pour l'argent.
On
tue les gens.
Voilà. Ouais. Et voilà que, donc, j'étais sujet à cette menace. Et voilà que, lors d'un enterrement, justement, donc, j'ai un collègue qui me dit, ouais, tu sais, t'as pas entendu ce qui s'est passé en parlant de mon associé. Je lui dis, justement, je pointe l'oreille. Je lui dis, mais, ça fait un moment que je l'attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, Bruno, il venait d'arriver chez lui au Canada, dans sa maison de vacances. Il est en train de ôter la neige, et puis il a fait un AVC. Donc, il est entre la vie et la mort. Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes là?
Ah ouais.
J'étais complètement déboussolé. Pour moi, tout s'effondrait autour de moi.
Ah ouais.
Et puis, donc, un an passe, mais entre-temps, je subis quand même. J'ai beau expliquer ça, mais...
À mon bookmaker,
mais il ne veut rien entendre.
Voilà, tu es menacé.
Voilà, il n'y a pas de sentiment dans ça. Donc, je suis... menacé, mon épouse est menacée, enfin c'était vraiment chaud.
Oui.
Mais je bénis Dieu parce que j'avais l'impression que Dieu m'avait mis sous une cloche et qu'il me protégeait quand même de toutes ces mauvaises personnes autour de moi. Tout ce qu'il envoyait repartait, ou s'il envoyait quelqu'un, il y avait une autre personne qui disait, non, ne touche pas à ce gars-là, c'est Bougnou qui l'a géré sans l'autre manière.
Ah,
à chaque fois, puisque j'ai eu après des gens qui m'ont dit, mais Bougnou, tu sais, voilà. Et quand ça s'est... donc, finalement, le collègue, l'associé, on le rapatrie en Martinique.
Uh-huh.
Il est rapatrié, on l'envoie directement à l'hôpital du Carbet pour l'éducation. Donc, je file le voir, le gars, il ne me reconnaît plus. Le gars, il est paraplégique, chaise roulante, il ne peut même plus parler, ça a bouché sous les côtés. J'ai dit, Seigneur, mais... Et l'argent dans tout ça. Alors, je monte tous les jours pendant des mois et des mois. Je monte à l'hôpital comme ça. Chaque fois, je dis, tu me reconnais. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur ait fait qu'il m'ait reconnu. Et puis, ça allait un peu mieux. Et puis, c'est de là que, donc, quand ça allait vraiment mieux, il m'a dit, Bruno, ne t'inquiète pas, ton argent est là. J'appelle mon fils pour qu'il puisse te remettre les sous. Son fils, donc j'étais en présence du fils, donc il explique au fils, il dit voilà, tel endroit, tu es dans la maison, tu récupères les sous et tu appelles Bruno pour lui remettre ses sous. Je peux vous dire que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, j'attends le fils, j'attends le coup de fil.
C'est pas... Le fils a quel âge?
Ah, c'est un mec qui devait peut-être avoir une trentaine d'années. Hein.
Ah ben, bon, on a tout compris.
Ouais, donc il a disparu, il a disparu avec l'argent, donc il a mis tout le monde, ainsi que son père, déjà le père malade par tout ça, donc il a mis tout le monde en difficulté.
Oui.
Donc, ceci étant dit, les menaces se faisaient encore plus pressantes et je pourrais dire encore plus musclées.
Oui.
Donc, je les ai carrément emmenés chez le père du garçon. Hein. Je lui ai dit, écoutez, venez avec moi, vous allez voir l'état du père, il va vous expliquer que je ne suis pas en cause. Il m'a dit, oui, mais il sera de cause, on ne veut pas savoir, parce que c'est toi qui es venu chercher l'argent, c'est personne d'autre. Donc, ils ont dû forcer le père à vendre sa grande villa.
Ah ouais.
Ouais, le monsieur est obligé de vendre sa villa. Donc le monsieur, il m'a fait un premier versement de 50 000 euros, puisque c'était pas en tranche, hein, la personne qui a. Donc il m'a fait une première tranche de 50 000 euros. Alors pour moi, je lui dis, eh ben, Seigneur, merci, il vend sa maison. Tu le problème sera réglé.
Ouais.
Et le monsieur, pris de panique, il m'a donné 50 000 euros, puis pris de panique, il a disparu dans la nature.
Ah, ton collègue.
Avec sa femme. Mon collègue. Il a disparu jusqu'à aujourd'hui, je sais pas où il est. Disparu dans
mais
la
nature. Mais il n'était pas tétraplégique, handicapé.
Oui, il n'est pas. Mon Dieu, sa femme m'a pris peur lorsqu'elle a vu les gars en tac fusil, tout ça. Ah. Sa femme, prise de panique, je crois qu'ils ont fait leur valise et puis ils se sont allés. Alors le bébé est resté pour moi.
Ouais.
Donc, je devais, malencontreusement, rembourser cet argent, qui n'était pas une petite somme, et j'ai dû servir de mule.
Oui.
Voilà. Donc pendant pratiquement presque un an et demi, j'ai servi de mule. Je montais, je descendais.
Pour rembourser la
dette. Voilà. Ouais. Et je peux vous dire, hein, pendant tout ce temps, la main de Dieu était sur moi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je veux bien expliquer? Parce que, vous savez, Dieu c'est au cœur qui regarde. Même pas l'action qui est menée, mais au cœur. Et Dieu avait vu mon cœur. C'est pas pour dire que je cherchais de l'argent pour avoir une villa, piscine, ou que je cherchais, ou qu'il y avait une, comment dirais-je, il y avait un amour de l'argent. C'était pas ça du tout.
Ouais, t'avais un projet.
J'avais un projet, que voilà, et je me retrouve dans une situation où je dois rembourser et j'ai pas le choix.
Ah ouais.
Je n'avais pas le choix. Donc, Dieu a permis, c'est bien pour ça que je veux bien qu'on comprenne que Dieu a, c'est le cœur qui définit exactement l'intervention divine de Dieu.
Oui.
Si tu as un cœur méchant, un cœur mauvais, Dieu va te laisser passer par, voilà. Mais quand Dieu voit que, effectivement, que oui, je suis fautif, mais en même temps, il voit le cœur que je crie à lui pour dire, Seigneur, je te demande tellement pardon pour d'avoir accepté cela. Et Dieu m'a protégé, je peux vous dire, Dieu m'a protégé jusqu'au dernier centime.
Oui.
Jusqu'au dernier centime. Quand j'ai donné le dernier centime, c'est alors qu'on m'a tenu. C'est alors que, voilà, on m'a tenu.
Oui.
Et lorsqu'on m'a tenu, j'ai compris que c'était justice.
Oui.
C'était justice parce que, oui, Dieu a permis que
je rembourse.
Mais maintenant, il faut passer à la caisse. Comme je dis, on fait des courses, mais il y a une caissière qui vous attend au bout pour que vous puissiez présenter la carte bleue ou l'espèce. Donc, il y a toujours un paiement. Donc, en fait, il fallait que je passe à la caisse. Et pour moi, c'était normal. Je dis, Seigneur, que ta volonté se fasse.
Oui.
C'était difficile, c'était dur. Parce que lorsqu'ils m'ont tenu, j'étais sous la métropole et j'avais mes enfants. Elles étaient encore petites et vraiment ils ont fait avec moi comme si j'étais un terroriste, quoi. Me jeter à terre, machin, me noter derrière. Alors que je me rendais, j'ai dit, mais écoutez, j'ai pas fait de trucs, j'ai mes enfants, ma famille. Enfin bon, voilà, on sait comment ça se passe.
On sait comment ça se passe.
Voilà. Et puis voilà qu'on m'emmène à Nanterre. Donc là, c'est un genre de bunker. À l'époque, c'était l'Ocertis. C'est comme ça qu'on appelait la brigade qui s'occupait des narcotrafics, tout ça. Et là, on m'emmène à la maison mère. Et là, je peux vous dire qu'il y a un bunker. Alors, vous descendez dans les profondeurs de la terre. Vous ne savez pas s'il fait jour, s'il fait nuit, enfin, quoi que ce soit. Vous êtes dans des cellules sous terre.
Oui.
Donc, aucun contact, rien.
Oui.
Et voilà que lorsque je m'apprêtais, ils m'ont dit, bon, ben, le temps est arrivé. On m'a auditionné, tout ça. Bon, voilà. Je passe ce côté. Et j'arrive au moment où on me dit, bon, mais voilà, ce soir commence ma garde à vue. OK. Et on me demande, qu'est-ce que vous voulez avant que vous ne rentrez en cellule? J'ai dit, ma Bible. Et il me dit, ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. J'ai dit, monsieur, je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin de ma Bible parce que Dieu m'a dit, je te parlerai. Comme ça, j'ai reçu dans mon cœur, je te parlerai. Et pour me parler, j'ai compris que Dieu avait j'avais besoin de
ta Bible.
Puisque la Bible, c'est la parole et la parole est Dieu. Donc j'avais besoin de cette présence, comme je dis. Et voilà que, alors, vous êtes dans un genre de cachot, je dis bien un genre de cachot. Lorsque j'ouvrais les bras de gauche à droite, je touchais les murs de chaque côté. C'est pour vous dire comment c'était un cachot. J'avais un bloc de ciment qui me servait de lit. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de couverture. Vous êtes à même le béton. D'accord. Donc, vous êtes en caleçon.
Caleçon.
Il n'y a pas de vêtements parce que si on veut s'étrangler ou bien si on veut, non, ni chaussures, ni caleçon. Et là, vous êtes couché sous le bloc de ciment. Là, une caméra sur vous. Et puis un WC, comment on les appelle là, vous êtes debout là, enfin voilà. Voilà, latrine à côté. Donc, je peux vous dire que dans ce petit cagibi, l'odeur de pisse, sauf qui peut. Voilà. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien.
Et il ne fait pas froid, non?
Ben, en fait, comme je pense que ça allait. Heureusement, j'ai pu dormir. Et le premier,
pas de couverture?
Pas de couverture, rien du tout. Pas de couverture, les chaussures hors dehors, on ferme la porte, les sandales dehors, même les sandales dehors, rien, comme un verre, à la rigueur, on m'a autorisé à garder le boxeur, mais c'était tout, parce que sinon, c'était à poil.
Ouais.
C'était comme ça. Mmh. Et voilà, voilà que, donc je passe ma première nuit, donc je suis perdu. Je me retrouve dans un contexte que j'ai jamais eu l'occasion dans ma vie de me retrouver. Je me retrouve dans une cellule vraiment, voilà. Et je commence à pleurer, je crie à Dieu, je crie à Dieu. Et voilà que je commence à lire ma Bible, mais avec les larmes.
Oui.
Les larmes à la bouche. Voilà. Et pour savoir si c'était nuit ou jour, c'est à un moment donné, ils éteignent la lumière. Ça veut dire qu'il est nuit. C'est comme ça que je savais s'il faisait jour ou s'il faisait nuit.
Ouais.
Et voilà que le soir, le Seigneur vient, je fais un songe. Et le Seigneur vient me chercher, je me retrouve en enfer. Mmh. Et en enfer, je peux vous dire que c'était vraiment réel. Mmh. Parce que j'entendais des cris, des gens qui souffraient. La cellule était noire, noire. Et puis il y avait comme si, c'était noir, les murs étaient noirs. Mmh. Et puis à chaque fois, il y a une flamme de feu qui sortait du sol et puis qui me consumait. Je criais. Et puis le feu s'éteignait, ça revenait. À chaque fois comme ça, je criais. J'entends les gens crier et je prends la direction de la porte, mais c'était comme à l'époque des rois, des cachouvrets, des grosses portes en chêne avec quatre petits barreaux.
Oui.
C'était ça, cette vision. Alors, j'essaie de tenir, j'essaie de regarder à l'extérieur, mais c'était le noir total. Mais j'entendais des cris, je peux vous dire, à vous glacer le sang. Et voilà que je commence à pleurer. Je réalise, je dis, alors Seigneur, j'ai atterri en enfer alors.
Et je commence...
Dans le songe, je commence à pleurer. Je pleure et je demande pardon. Je pleure, je demande pardon. Je suis inconsolable et le feu qui rejaillit à chaque fois qu'il me reboule, ma peau, tout ça. C'était vraiment impressionnant. Et pendant que j'étais là en train de pleurer, je sentais que mon cœur se déchirait tellement que je demandais pardon à Dieu. Et puis, soudainement, un pan du mur devint tout blanc.
Mais
vraiment de blanc écarlate.
Oui.
Et là, je vois comme en imprimé tous mes péchés écrits sous le mur. Puis ça, comme si c'est un truc d'ordinateur qui passe comme ça, ça défile. Et chaque péché, je demandais pardon. Chaque péché qui s'affichait sous le mur, je demandais pardon. Je déchirais mon cœur. Vraiment, le pardon vraiment profond, les entrailles même.
Oui.
Et quand tout d'un coup, il n'y a plus rien eu sur le mur, comme si l'Esprit de Dieu est venu m'ôter.
Oui.
Je suis sorti de l'enfer, je me suis retrouvé au paradis. Il y avait un ange à côté de moi. Et là, c'était magnifique. Je me suis retrouvé dans une prairie avec des fleurs d'une couleur, de ces couleurs, un vent et des odeurs, des parfums qu'on ne prend même pas ici, tellement que ça sentait bon. Je dis, Seigneur, vraiment, c'est un moment magnifique. Et puis, à un moment donné, je reviens à la réalité, qui veut dire que c'est l'heure de passage de car, si je pourrais dire, du surveillant qui vient voir si j'ai passé une bonne nuit, si je ne suis pas mort, si voilà, c'était donc là le surveillant qui passait au petit matin pour voir si j'étais en vie. Et cet homme qui rentre dans la cellule, il me dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors moi, je suis encore tout effaré puisque je dormais quand j'ai entendu les clés dans la porte. Donc je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette odeur-là? Je lui dis, mais quelle odeur, monsieur? À part l'odeur du WC qu'il y a là, je ne prends pas d'autres odeurs. C'est pas pour des compagnons de Magno, de Chinois, ni de Stack Élysée. Voilà. Il me dit, mais c'est quoi cette odeur, je vous dis? Je dis, mais monsieur, mais regardez, il n'y a que ma Bible là, et regardez mon état. Donc, j'ai pas de parfum, j'ai rien. Il me dit, mais en 20 ans de carrière, c'est la première fois que je prends une odeur comme ça. Mais puisque ça sent bon, c'est la première fois que je prends une odeur comme ça. Et pendant qu'il est en train de me dire ça, l'ange de l'Éternel va à mes côtés, me dit, voilà, j'ai permis qu'il prenne l'odeur pour que tu puisses comprendre que ce que je t'ai montré, ce que tu as vécu, c'est la réalité. Ce n'était pas un rêve, c'est la réalité. Je t'ai emmené en enfer pour voir, pour que tu puisses témoigner. Je t'ai emmené au paradis et j'ai permis que cet homme prenne l'odeur pour que tu puisses comprendre que c'était réel. Et c'est à ce moment que, vraiment, à un moment donné, donc cet homme qui... Il m'emmène prendre ma douche et il revient, me dit, mais c'est quoi la Bible là? Alors je lui dis, mais vous n'avez pas le droit d'avoir ça là? Je lui dis, ben en tout cas, c'est là. Alors il me dit, bon, je vous emmène à la douche, mais quand je reviens, je récupère la Bible. Et pendant que je me douche, je lui dis, mais Seigneur, tu m'as dit que tu veux me parler, papa. tu ne peux pas permettre cela. Et je reviens, on me ramène à ma cellule, et sous le parvis de la porte, je regarde l'agent, je regarde la Bible, je regarde l'agent, et il me remet à dire, allez, gardez votre Bible. Et puis il a fermé la porte derrière. Donc, je commençais déjà à vivre quelque chose. Je commençais à avoir la main de Dieu. Mm-hmm. Et la chose aussi surprenante, c'est que j'étais convoqué par le directeur des directeurs de l'Ocertis.
De la prison, quoi.
Non, même pas à la prison. Le boss des boss de l'autre qui s'occupe des trucs de narcotrafic.
D'accord, ok.
Et lorsque j'étais convoqué, j'étais à son bureau. D'ailleurs, ils m'ont dit, mais c'est normal, c'est bizarre parce qu'il n'a jamais, il ne fait pas ça. Il ne convoque pas les gens à son bureau.
Ah ouais.
Ça ne s'est jamais fait.
Ah ouais.
Et cet homme me reçoit et il me dit, monsieur, j'ai eu vent de votre affaire. Ne vous inquiétez pas, j'appelle le juge devant vous pour pouvoir plaider en votre faveur, pour que je comprends votre difficulté. Mais en tout cas, devant moi, il appelle le juge. Oui, bon, monsieur Modiane, il n'est qu'une victime. C'est pas la peine de trop le charger. C'est une victime qui est là et tout et tout. Je dis, Seigneur, et quand on me ramène, l'agent qui dit, mais vous êtes qui? Parce
c'est incroyable,
ça. Il a dit que ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Mmh. Il me dit, mais vous êtes qui? Mmh. En pensant que j'étais une personnalité. Mais c'est vrai que non, je ne suis pas une personnalité, mais oui, je suis une personnalité.
C'est une réalité, tu es une victime.
Je suis Christ. C'est quand on passe par les eaux du baptême, c'est Christ, l'Esprit de Dieu est déjà en nous.
Oui,
donc,
oui.
Nous sommes déjà une personnalité.
Oui, voilà. Oui.
Dans le spirituel, nous avons déjà quelque chose en
Christ. Quelque part, ils avaient raison.
Mais oui, voilà. Mmh. Et voilà. Donc, voilà, ne voit-il pas que tout. Alors, mon séjour là-bas. C'est très bien passé. Quand la garde à vue, les 4 jours de garde à vue sont passés, on m'a envoyé maintenant dans une prison. Mmh. Et j'avais plusieurs prisonniers avec moi dans le fourgon. Et arrivé, on vous donne votre pactage pour que chacun, qu'on puisse envoyer chacun dans leur cellule. Et voilà qu'il y a un agent qui vient vers moi, que je ne connais ni là-dedans ni d'œuf. Mmh. Et cet homme vient vers moi et me dit, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Je vais mettre dans une cellule super bien, vous serez tout seul, il n'y a aucun problème. Je dis, ah ouais. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Mm-hmm. Je bénis Dieu pour cela. Mm-hmm. C'est là que tu dis, Seigneur, ouais, je sais que tu es là avec moi, tu marches. Mm-hmm. Voilà qu'on me transfère en Martinique. Mm-hmm. On me transfère en Martinique et arrivé en Martinique.
À Ducos,
voilà. Mm-hmm. Je pourrais dire que. En France, les prisons sont des clubs med. Non, je vous le dis.
Par rapport à Martinique.
Ah là là. Ce sont vraiment des clubs bêtes.
Oui.
Ici, c'est l'enfer. C'est ce qu'on appelle l'enfer.
Vraiment. Ah oui.
Vraiment.
Ah oui.
Et quand je suis arrivé, donc on arrive, on vous envoie dans une UV où on appelle les arrivants.
Oui.
Et là, dans mon affaire, puisque c'était une grosse affaire, donc il y a eu un contrat qui était mis sur ma tête. Ils ont dit comme quoi que c'est à cause de moi qu'ils ont tout s'effondré, qu'ils ont tenu tout le monde. Enfin, voilà.
Ils ont pris toute la bande.
Voilà. Ils ont dit que c'est à cause de moi. Mais je leur ai dit, mais avant moi, ils ont bien tenu des gens. Avant qu'on arrive à moi. Mmh. Ils ont tenu des gens qui ont parlé. Puis après, ils sont arrivés à moi. Puisque j'ai écouté parce que ce qui se passe à l'Ocertis, on vous fait écouter les audios, les téléphones, les gens qui. On vous fait entendre tout ça. Donc,
oui.
Tu peux pas. Si tu dis que c'est un tel café, tu peux pas dire que c'est pas lui. Parce que tu as entendu son audio quand il a déclaré. Mmh. Donc, on me faisait. Voilà. Et ne voit-il pas que. Donc, il y avait un contrat sur ma tête.
Mmh.
Et on me met dans une cellule et il y a un jeune homme qui était là avec moi. Il me dit, mon frère. Et il me dit, Ebouk, bon, pas qu'on est tout, mais vous savez que Yokipichou, Yokatonou, dans douche, on t'attend pour la douche là et on va te piquer. Les gars ont prévu de te tuer. Et je dis, mais non, machin. Et je le vois pleurer. Cet homme a commencé à pleurer. Il me dit, frère, on va te tuer, frère. Les garçons ont déjà aiguisé leur couteau. Ils t'attendent dans la douche, je te dis.
Mmh.
Alors, je crie à Dieu, je dis, je prends le psaume 23, je lis le psaume 23, et puis je dis, Seigneur, si mon heure est arrivée, si mon jour est arrivé, que ta volonté se fasse. Mais je te demande encore pardon.
Mm-hmm.
Pardon, Seigneur. Et on vient vous chercher aux environs de 16h. 16h, 15h30, 16h pour aller prendre la douche.
Mm-hmm.
Je pourrais dire 16h. Voilà, 16h. Et. Donc, l'heure passe, et il est déjà pratiquement 16h moins 5. Et le jeune homme qui est là, il me dit, ne sors pas, ne va pas te doucher, ne sors pas, s'il te plaît. Ils t'attendent là, ne sors pas. À 16h moins 5, la porte s'ouvre. Un surveillant qui surgit me dit, Moderne, je dis, c'est moi, sortez, prenez votre pactage, on vous change du V, vous allez autre part. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la dernière seconde, de la dernière minute. C'est le Dieu qui intervient toujours pour ses enfants.
Ah ouais.
Toujours.
Oui.
Il intervient toujours pour ses enfants. Voilà qu'on m'envoie dans un autre UV. Et on m'envoie dans un UV où c'est ouvert. Je veux dire qu'à partir d'une certaine heure, comme 15h30, 16h, on vous fait rentrer pour fermer les portes. Mais durant la journée, c'est un peu plus ouvert, c'est un peu plus light. Arrivé là, saisi par l'Esprit de Dieu, je pourrais dire, hein, dans ma cellule, je commençais à louer Dieu. Et puis, il y a des prisonniers qui venaient. Puis, on a commencé, comme si c'était dans un lieu de culte. On était assis, tout le monde avait sa Bible. On commençait à louer Dieu, on prenait la parole et tout, et tout, et tout. Et puis, vraiment, on voyait la main de Dieu. Et voilà qu'on envoie un homme. Je vous dis, hein, c'est pas dans les films qu'on voit ça, un homme, on envoie un homme. On mandate un homme pour me faire la peau. Cet homme est comme un serpent là, il me surveille pendant un mois, il est là.
Il est là,
il attend le moment comme le serpent pour...
Compliqué.
Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans ma cellule, Dieu me permettait de... C'est l'amour, je vous dis, hein, l'amour triomphe de tout, de toutes les situations. L'amour, l'amour de Dieu, je dis bien l'amour, pas de l'amour de ce monde, l'amour hypocrite. Je parle que quand tu viens avec un amour, un cœur sincère, et que tu témoignes l'amour de Christ, je peux t'assurer que l'amour détruit les plans de l'ennemi. Et là où, dans cet homme, à un moment donné, cet homme me dit, écoute, il m'appelle, il me dit, écoute, ça fait pratiquement un mois et demi, je suis là, je te surveille. Je dis oui, enfin je lui dis bonjour, tout ça. Il m'a dit, eh ben, c'est pour toi que je suis ici. Je dis, ah bon, pour moi? Il m'a dit, oui, on m'a envoyé pour toi, à cause de ce qui s'est passé. Alors je lui dis, et il m'a dit, je ne peux rien te faire parce que je te regarde. Ça fait un mois que je suis là en train de t'observer. Tu es en train de bénir tout le monde. Tu pries pour celui-là, tu pries pour celui affligé. Tu es en train de préparer à manger pour celui qui n'a pas. Qu'est-ce que je peux te faire? Je suis là, mais je me demande qu'est-ce que je peux te faire. Je demande à sortir d'ici. Comme ça, il m'a dit ça. Je demande à sortir d'ici, je ne peux rien te faire. Il m'a dit, par contre, fais attention, regarde derrière toi, parce que moi, je ne t'ai rien fait, mais ils vont mandater d'autres personnes encore. Donc, je me retrouvais dans cette situation. Et ne voit-il pas qu'en prison, ils ont trouvé que j'étais un petit peu trop à l'aise, histoire de prier, machin, qui s'arrête.
De chanter louange.
Non. Alors, ils m'ont envoyé dans un UV où c'était chaud à ce moment-là. Ah, où les gars, c'était des bagarres, c'était toujours des bagarres. On envoyait les gars, on les appelle les blacks, en fait, des gars comme si c'est des militaires, quoi, enfin, voilà, qui travaillent à la prison pour séparer, ou bien voilà. C'était toujours ça. Et ils ont décidé de m'envoyer là. Et de surcroît, on m'envoie dans une cellule avec un gars qui ne supporte personne et qui blesse tout le monde. Et ce gars-là, on lui fait, enfin, voilà. Donc, on lui avait donné une mission, c'était de me piquer. Et voilà que, comme je dis encore, l'amour de Dieu surpasse toute chose. J'entre dans la cellule. Même les gens, les gars qui étaient là, ont dit, mais qu'est-ce que cet homme a fait pour que ça? C'est dans la fosse aux lions qu'on l'a envoyé, parce que c'était une fosse aux lions. Et cet homme, qui, quand j'ai pris, je dormais, ma première soirée, cet homme s'est mis à mettre trace FM à 1h du matin, minuit 1h du matin, puis a allumé toutes les lumières. Il s'attendait à ce que je dise quelque chose. Il m'a fait ça une fois. Il m'a fait ça la deuxième fois. La deuxième fois, j'ai dit, oh, mon Kirachi, tête missée. Seigneur, l'Esprit de Dieu, il m'a saisi, il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé pour cela. Alors, tu sais quoi? Tu vas prendre ta Bible, et puis tu vas me louer, tu vas m'adorer comme jamais. Alors, à chaque fois qu'il faisait ça, eh bien, j'avais le réflexe, je prends ma petite Bible, je mets les boules caisses, et puis je suis là, j'adore Dieu, je lis la parole, je machais. Donc, il voyait que ce qu'il faisait,
ça
n'avait aucun effet sur moi. Mais je témoignais toujours de l'amour. J'étais là avec lui, je lui dis, tu as quelque chose à manger, parce que c'est un petit peu plus difficile pour lui. Moi, ma femme pouvait me donner un petit argent pour acheter, parce que vous avez la possibilité de faire des courses. Donc, je partageais avec lui, je faisais des choses avec lui. Et là, dans l'amour, malgré en sachant tout ce qui se passe, dans l'amour, et cet homme, au bout d'une semaine, qu'ils ont vu, qu'il n'y a rien pas fait. Ils ont dit, bon, et Modane, sorti ici, on vous amène encore à notre endroit. Alors, le gars qui était là, il dit, mais pourquoi? J'étais tellement bien avec lui. Alors, j'ai dit, les souverains qui le regardent, qui disent, monsieur, mais c'est pas qu'à supporter mon âme, il a blessé toutes ces mounas. Et là, avec moi, j'étais comme Daniel dans la fosse au lion. Alors, on m'envoie dans un autre UV encore. Mais je me suis baladé d'UV en UV. Et ce que je pourrais dire, c'est que j'ai vu vraiment Dieu dans toute sa grandeur, sa splendeur. On m'envoyait dans un UV, il y avait 5 personnes, 5 nationalités différentes. Je peux vous dire que c'est chaud. Lorsque vous êtes dans un truc de 12 mètres carrés, puis que nous sommes à 5 dans ça, je peux vous dire qu'il fait chaud, et puis c'est chacun pour soi là. Et quand je suis. Et puis, alors, il y a, comme je dis, l'ancien, il y a un ancien. Alors, l'ancien, c'est quand toi tu arrives, tu es nouveau, alors celui, le dernier qui est là, c'est l'ancien qui est là. Donc, il veut dire que tu n'as pas ton mot à dire. Tu t'écrases, c'est tout.
C'est tout.
Et je suis arrivé, donc le premier soir, je suis arrivé au matin, machin. Le premier soir, je n'ai pas dormi. Les gars, c'est Trace FM H24. La télé ne s'éteint pas du tout. À fond la caisse. Comment on peut dormir comme ça? Je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Et je vous dis, 5 nationalités, 5 machins, et il y a l'ancien. Mais j'avais oublié que j'étais une autorité. Je suis une autorité.
Ah oui.
On est une autorité en Jésus-Christ. Et j'ai saisi cette autorité. J'ai dit, bon, messieurs, là, non, c'est ça, c'est à partir d'aujourd'hui. Trace FM, éteigne le soir, messieurs. Et puis le dimanche, jour du Seigneur, nous regardons la télé, puis tout le monde cache chez Biblio. Tout le monde regarde le moment, regarde ça. Il dit, compère, attends, vous finissez arriver, vous n'avez pas, qui ça va aller là. Je dis, oui, mais c'est comme ça, messieurs, c'est comme ça que ça va se passer ici, c'est pas autrement. Et je peux vous dire que cette autorité que j'ai eue en Jésus-Christ, tout le monde, parce que le Seigneur a dit que là où mes pieds fouleront, que j'aurai possession des lieux, j'ai pris possession des lieux, tout le monde était soumis. Lorsqu'on faisait à manger, c'était chacun pour soi. J'ai dit, messieurs, c'est terminé cette histoire de chacun pour soi. J'ai dit, bon, je fais des pâtes avec des lardons. Qui c'est qui veut? Là, tout le monde est là. Eh bien, voilà. J'ai dit, ben, messieurs, voilà. Si moi, je n'ai plus et que toi, tu as, eh bien, voilà. C'est le partage. C'est comme ça que ça va s'appeler ici. C'est le partage. Et je peux vous dire que tout le monde disait, bon Dieu, mais c'est la cellule où les gars sont trop cool. Les uns sont là que les autres. Et puis, je leur disais, mais messieurs, souvent, il y avait des conflits. Vous savez, on est sec dans un truc. Hein, automatiquement, des conflits. Alors je dis, mais les gars, mais non. Un conflit, c'est parce qu'on n'a pas bien compris, on ne s'est pas bien compris. Asseyons-nous, discutons, ayons l'intelligence de nous comprendre les uns les autres, et puis tout ira bien.
D'autant plus qu'on est dans une cellule.
On est dans une cellule.
Vous pouvez aller nulle part.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui. Mais là-dedans, il y avait quand même l'ancien, qui est un petit peu, comment dirais-je, il avait, comme il a vu que tout le monde m'écoutait, et que lui, il perdait sa notoriété, donc, quand je parlais de, je commençais à parler de Dieu, je mangeais la Bible, la journée je mangeais ma Bible, vraiment. Et il commençait à dire, ah ouais, comme si je raconte n'importe quoi, que la Bible c'est mensonge, participe à tata. Mais je demeurais toujours dans l'amour avec lui. Je ne regardais même pas ce qu'il disait. Mais comme le Dieu que nous servons, Dieu est Dieu, voilà-t-il pas que cet homme tombe malade?
Oui.
Et voilà-t-il pas que c'était vraiment grave? Et tout le monde autour de lui, ses poteaux, comme on dit, qui étaient dans la cellule, t'as les portables, t'as qu'à dormir, t'as qu'à regarder la télé, donc il était tout seul en train de souffrir. Le Seigneur me dit, va, et je vais vers lui, et je commence à masser ses cuisses, et je prie en même temps, je masse ses cuisses. Je suis là avec lui, je dis, ça ira, t'inquiète pas. Le gars me regarde avec du goût, je veux dire, non, mon père a compris, c'est monsieur qui m'a mal parlé, et c'est monsieur qui a fait bien loin. Je suis là avec lui, et puis, ça fait un moment qu'il avait appelé l'agent.
Ah ouais.
L'agent lui a dit non, qu'il n'y a rien, ça a été fait assez amère des mots. Et là, j'ai appelé l'agent de moi-même. L'agent a dit, moderne, si tu as appelé, je viens. Et quand ils sont venus, ils l'ont amené et le gars faisait une faiblite. Il avait déjà un caillot qui allait en direction de son cœur.
Ah ouais.
Il allait mourir là.
Ah ouais.
Donc il a été hospitalisé. Et quand il est revenu d'hospitalisation, il est revenu, on l'a ramené en prison, presque un mois après. Il faisait chaud. Donc, tous les autres, ont gardé le ventilateur et il faisait chaud. Le Seigneur m'a dit, va, enlève ton ventilateur et va. Il sort de l'hôpital, il lâche. Et voilà, toujours dans l'amour, je lui dis, tiens, je te passe mon ventilateur. Je sais que c'est pas évident, tu es en train de souffrir. C'est pas grave si je vais dans la chaleur, ne t'inquiète pas. Et j'étais là avec lui et puis je le massais quand même, j'étais là. Et cet homme s'est levé un jour, il a dit, messieurs, où est Samoué là? M'a parlé personne vini mal parler, m'a dit mission encore. M'a parlé personne vini dit bêtises dans les bouts, non encore. Parce que c'est lui seul, je vous ai tous observé, c'est le seul, pendant que j'étais malade, qui était à mon cheveu, qui était là avec moi, il m'a toujours manifesté de l'amour. Il m'a dit, mon frère, oui, je veux suivre Dieu maintenant. Et cet homme, je peux vous dire, on était une famille. Oui. Il y en a qui sont partis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui sont partis et d'autres qui sont arrivés. Et voilà qu'à un moment donné, en prison, on m'appelle. Une surveillante qui m'appelle, un chef qui m'appelle, me dit, moderne, voilà, on va vous envoyer telle personne. Alors, un des gars qui étaient avec moi qui disent ah madame Etel rien qui bouge faut travailler bah nous mais qui ça c'est pas normal. Et la dame qui dit écoutez monsieur Etel, c'est pas pour vous, c'est pour monsieur Modène, parce que nous avons remarqué que tous les récalcitrants que nous lui envoyons, ils ressortent comme des brebis.
Ah ouais.
Alors oui, c'est pour lui qu'on les envoie. Et je donne à Dieu toute la gloire. Je veux que vous puissiez bien comprendre que j'ai vu vraiment la main de Dieu. Je voyais à ce moment-là, ça commençait à être comme une traînée de poudre dans la partout, en toute humilité. Tout le monde m'arrêtait. Mon frère, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Quelle parole? Quel verset? Je suis là tout le temps, j'entendais les barreaux. Hey, mon frère, quelle parole? Quel verset que tu as pour moi? Ah, merci mon Dieu, mon ça m'a fait du bien. Et c'était comme ça. Et le Seigneur m'utilisait. Et voilà que j'arrive sur un homme. Et cet homme, c'était un chef de gang. Et cet homme donnait, c'est lui qui donnait les directives en prison, avec ses locks et tout. Et je lui ai parlé de Dieu. Et cet homme, c'est un dimanche, ça s'est passé un dimanche. Il va, c'est le lieu où on se rencontre tous, nous étions dehors. Et cet homme monte sous un grillage et il commence à dire, messieurs, acceptez Jésus dans votre vie, arrêtez de vous battre, aimez-vous les uns les autres. Et là, tout le monde était perplexe parce que c'est un chef de bande et c'est lui qui donnait les directives, ouais, aille blesser messieurs, aille faire ci, aille faire ça. Et cet homme, aujourd'hui, je le vois dehors, il a coupé ses locks, il travaille et il me dit, lorsqu'on se voit, il est super content de me voir parce que sa vie était transformée, sa vie a changé. On a envoyé, par la suite, on envoie un métropolitain, un athée, cet homme était athée. Et voilà que l'Esprit de Dieu fait, et cet homme, il me dit, mais je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Dieu, mais je ne veux pas connaître. Et finalement, Dieu a posé sa main dans la vie de cet homme. Et cet homme, à la fin, qui me dit, je suis tellement content d'être entré en prison. Je lui dis, tu sais, c'est difficile de dire ça, hein, que tu es tellement content d'entrer en prison. Il me dit, mon frère, tu sais pourquoi je suis content d'entrer en prison? Parce que j'ai fait la rencontre de Dieu. J'ai fait la rencontre de Jésus. Je ne le connaissais pas quand j'étais dehors. Mais Dieu t'a utilisé pour que je puisse faire cette rencontre. Et cet homme m'a dit, merci. Il est parti. Et voilà que, comme je vous ai dit, de cas en cas, et voilà que je tombe sur un ami, un homme qui était complètement désespéré, un homme qui était, qui était dans le trafic de drogue, et c'était mort pour lui, parce qu'on l'avait tenu avec une quantité tellement énorme que c'était, il me disait que voilà, c'était mort pour lui.
Ah oui.
Et cet homme, je lui ai dit, écoute, tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Il m'a dit, j'ai tout essayé. J'ai même pas de quoi prendre un avocat commis d'office. Je lui ai dit, à ce point. J'ai dit, maintenant, je veux te faire avoir une expérience avec Jésus. Il me dit, je n'ai pas le choix. J'ai dit, ton cœur est disposé. Il m'a dit, mon cœur est disposé. J'ai dit, allons-y. Et cet homme a commencé à dévorer la parole. Je lui ai dit, commence par lire la parole. Commence avec la parole de Dieu. Il a commencé à dévorer. On partageait ensemble la parole de Dieu. Et voilà qu'arrive le jour où cet homme, son procès, ils étaient plusieurs sous l'affaire. Et d'ailleurs, c'était lui la tête.
Oui.
Non, c'était spectaculaire. Ce procès a duré une semaine et tous ses comparses, alors c'était 10, 12, 13, enfin c'était comme ça. Et puis arrivé à lui.
Tu parles d'année là.
Je parle d'année, Je parle d'année. Et puis on arrive sur lui le chef. 4 années. 4 ans de prison. Quand cet homme est sorti, il est arrivé, il tremblait, il m'a dit, bon Dieu Bruno, non, je ne peux pas croire ça. J'ai vu le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Et cet homme, comme je dis, il a cheminé. Je bénis Dieu pour cela. Il a cheminé, mais cet homme m'a dit, tu sais, je dois me défaire parce que j'ai fait une promesse à Dieu. Et je dois me défaire de tout ce que je possédais par la drogue, par l'argent. Je dois tout me déposséder de tout ça et je dois faire des dons. Et je peux vous dire, il avait 2-3 maisons, villas en France, piscine. Il a tout vendu. Il a donné aux pauvres. L'argent était distribué. Il avait une maison à l'étranger, il a
vendu aussi.
Et là, il s'est retrouvé, sans rien.
Sans rien.
Et voilà que dehors, je rencontre cet homme. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu deviens? Il me dit, je suis tellement heureux et tellement content. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Il me dit, frère, on me donne un petit 400 euros, je vais m'occuper des personnes âgées, je vais laver leur linge, je vais leur machin. Il me dit, je suis tellement heureux de faire ça, de partager des délits. Je lui dis, Seigneur, est-ce que tu vois cet homme? Cet homme qui vivait dans une sphère où que pour lui, un vêtement se porte qu'une fois. C'est tiré, brûlé.
Ah,
il
oui.
te disait qu'un jean, c'est Malhéré qui a porté ça. Il ne portait pas de jean.
Ah, oui.
Parce qu'il te dit que c'est bah, pour Malhéré, tellement que cet homme-là...
avait de l'argent.
Voilà. Et aujourd'hui, il me dit qu'il est tellement heureux.
400 euros par mois.
400 euros et il s'occupe des personnes âgées. Là, qu'a fait-il, voilà.
Ah, oui.
Et je bénis Dieu pour ça. J'ai dit, Seigneur, vraiment, il n'y a que trois.
Mm-hmm.
Et il y a tellement... Je survole parce que je peux vous dire qu'il y a tellement de choses.
Mais il faudrait que tu écrives un livre.
Mais...
c'est un cours ou bien quoi? Mais un best-seller ou ça?
Franchement, parce que tout au long, je peux vous dire, tout au long, j'ai vu la main de Dieu. Tout au long, j'ai vu la gloire de Dieu.
Mais tu as fait combien de temps à l'intérieur?
Alors, j'ai fait pratiquement presque 4 ans. 3 ans et demi, presque 4 ans.
Ah, oui.
Et je peux vous dire qu'il y a même un surveillant. Mm-hmm. Cet homme, il était contre moi. Cet homme avait tout fait pour qu'on puisse me donner, on puisse rallonger ma prison.
Ah, oui.
Mais... j'ai toujours été dans l'amour avec lui.
Oui.
Chaque fois que je passais, vous allez bien, monsieur, mais sans hypocrisie, avec vraiment un cœur d'amour.
Oui, oui.
Et avant que je ne parte, cet homme est venu me voir dans ma cellule. Il m'a dit, comment tu fais? Comment tu fais? Je dis, comment je fais quoi? Comment tu fais toutes ces choses? Je dis, mais qu'est-ce que je fais?
Oui.
Il me dit, malgré tout ce que je t'ai fait, malgré tout ce que je t'ai fait, tu m'as donné de là, tu m'as donné de l'amour comme ça. Mais comment tu fais? Quel est ton secret? J'ai dit, ben, Jésus-Christ, voici mon secret, Jésus-Christ.
Ouais.
Et cet homme me dit, non, il faut que je te voie dehors, ce n'est pas possible.
Ah, ouais.
C'est pour ça que je dis que lorsque nous servons Dieu, nous devrions être des enseignants. Notre vie doit être témoignage, même si je suis en case-prison, parce que là, je suis pour ceux qui sont en prison. Je dois aussi témoigner de Christ. Ma vie doit témoigner de Christ.
Oui.
Mon temps, quand j'étais en prison, j'ai pu lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse.
Oui.
Mon temps en prison, c'était un temps où j'étais
de mise à part pour Dieu.
Là là,
et de formation aussi. Et de bénédiction pour les autres.
Oh, Seigneur, c'était... mais vraiment.
Ouais.
Vraiment.
On sent pas en toi que tu es en regret. Non, tu n'as pas été brisé par ça, mais tu as été formé par ça.
Alors, j'étais brisé quand même parce que lorsqu'on est époux, on a des enfants bas âge.
Justement, parle-nous de tes enfants pendant cette période-là.
C'était très dur. D'ailleurs, l'avocate avait suggéré à ma femme de ne pas emmener les enfants parce qu'elles étaient encore petites pour que ça ne soit pas un traumatisme.
Oui.
Mais j'en avais besoin. Et je crois qu'elles en avaient besoin aussi.
Ouais,
elles en avaient besoin parce que si ce fil est interrompu, avec l'écart en 4 ans, l'enfant peut difficilement, à ma sortie, dire papa. Voilà. Puisque, il y a eu 4 ans, et en 4 ans, ben, c'est que maman. À un moment donné, je me rappelle, la toute dernière, elle me disait oui, on va à la maison de maman. J'ai dit mais non, c'est la maison de papa et de maman. Non, c'est la maison de maman. Pourquoi? Parce que durant ce temps, j'étais absent.
Quand même 4 ans, ça fait beaucoup
pour l'enfant. Voilà, j'étais absent.
Et ton épouse, comment elle a vécu ça, ton épouse?
Alors, c'était un choc pour elle.
Ah ouais.
C'était un choc pour elle. Je demande pardon. Jusqu'à maintenant, je demande pardon au Seigneur pour ce choc. Mais bon, voilà, Dieu a voulu, c'est le plan de Dieu. Mais c'était un choc pour elle, mais elle m'a soutenu. Elle était là jusqu'au bout. Elle a tenu. Et en fait, dans cette... comme elle me l'a si souvent dit, elle me dit, Bruno, tous les jours, un jour, elle pleurait tellement... quand l'absence, elle touchait le lit, et j'étais plus là. L'absence. Elle est restée presque une semaine à Dieu, à pleurer sans s'arrêter. Puis elle m'a dit à un moment donné, Bruno, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Il m'a dit, loue-moi. Dis-moi merci et loue-moi simplement. Dis-moi merci et loue-moi simplement.
Ouais.
Et ça a été le bâton de pèlerin de mon épouse. Durant tout ce temps, loue-moi. Et dis-moi merci. Loue-moi et dis-moi merci. Et c'était ce que mon épouse faisait. Elle tenait bon. Le Seigneur pourvoyait. Parce que c'était moi qui ramenais. Je travaillais à ce moment-là. Donc, c'était difficile pour elle. Mais le Seigneur a été là. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il était là. Et puis voilà, le Seigneur. C'est glorifié.
Mais ton témoignage ressemble à peu de choses près à celui de Gauthier. Comment il s'appelle encore? C'est Gauthier.
Qui c'est?
Gauthier, c'est à peu près comme toi, ton style, ton
c'est
profil, qui a fait aussi la prison, et sa femme était derrière, tenait quand même.
C'est ça.
C'est pas facile.
C'est pas facile.
Oui.
Parce que c'est pas facile, parce que comme je dis, vous êtes humilié. On vous déshumanise. Non, mais c'est vraiment, en prison, tout est fait pour que vous puissiez ne plus ressentir que vous êtes humain. Vous êtes comme si... tu veux revendiquer quelque chose, Tais-toi parce qu'on n'est pas un complice.
Ah ouais.
On vient, on fait une fouille à poil devant tout le monde.
Ah ouais.
C'est dur. À poil devant tout le monde. C'est dur. Donc si tu as une certaine, tu es pudique, c'est fini, tu es brisé, tu es. Voilà quoi. Assez souvent, on vient faire des fouilles dans la cellule à poil. Donc c'est je veux dire que. Voilà, quand vous essayez de manifester de l'amour pour les autres, parce qu'à un moment donné, j'étais au service des autres. Il y avait des étrangers, je faisais des courriers, j'écrivais pour eux, j'écoutais leurs doléances, leurs besoins, j'écrivais à la prison pour leur dire, voilà, ils ont tel problème, ils ont besoin de ci. Donc, à un moment donné, ils m'ont dit, bon, nous commençons à signer assez pour, pas venir pour ça ici, t'as leur demandé nous au bureau. Et ma cellule, c'était ça. C'était un bureau.
Alors, il s'appelle Yanis Gauthier. Tu pourras regarder chez toi ce soir son témoignage. D'accord. Il s'appelle Yanis Gauthier.
Okay.
Ben, il te ressemble déjà un peu. Et puis il a, mais après ça, on voit que c'est des hommes comme vous, enfin, comme vous appelez, péjoratif, hein, que Dieu vous utilise puissamment. Oui, et c'est extraordinaire.
C'est
et
ça, c'est ça.
Et quelqu'un, Dieu t'avait préparé. Je vois que Dieu t'avait préparé pour cela.
Si. Dieu m'avait préparé pour cela. Et vraiment, comme je dis, tout au long de ma vie, je suis passé par des épreuves qui m'ont formé. Qui veut dire que quand je suis arrivé, je ne me suis pas retrouvé en mode complètement décomposé, mais j'avais déjà un mental. Le mental était déjà préparé et ma force, je savais que je me rappelais de cette prophétie que Dieu t'emmènera à un endroit, mais sache qu'il sera avec toi. Donc en fait, c'était ma force dans les moments difficiles. Dans les moments, c'est vrai qu'il y a des moments où je craquais, je pleurais. Parce que je peux vous dire que c'est difficile. Je craquais, je pleurais parce que ma femme me manquait, mes enfants me manquaient. Je voyais les années défiler, puis que c'est des années que j'ai pu être à côté de mes enfants puis les voir grandir.
4 ans, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
4 Noël,
voilà.
4 Nouvel An.
C'est quelque chose.
Ah oui.
Alors, c'est pour ça que je dis, j'ai vu vraiment l'intervention divine de Dieu. Durant ce moment où j'étais en prison. Et comme je dis, j'avais la tristesse de la séparation de mon épouse, de mes enfants. Et en même temps, j'avais une joie au fond de moi de voir que l'instrument que j'étais entre les mains de Dieu, de voir que là où Dieu m'envoyait, il se passait quelque chose. Et j'ai compris que dans ma vie de tous les jours, il doit se passer quelque chose là où je suis. Même nous, en tant que chrétiens, nous, enfants de Dieu, là où nous sommes, il doit se passer quelque chose.
Oui.
On ne peut pas être comme des personnes lambda puisque nous ne sommes pas n'importe qui. Donc c'est pour ça que mon séjour en prison a été très formateur pour moi. J'ai compris sur le temps, j'ai compris beaucoup de choses avec mon épouse. On a compris beaucoup de choses.
Oui.
Et aujourd'hui, qui fait que c'est une discipline pour moi.
Oui.
Voilà.
Oui.
Voilà. Je dis bien que il est important de marcher avec la mentalité du royaume de Christ. Si on ne marche pas avec la mentalité du royaume de Christ, on reste religieux, on reste terre à terre, on reste un chrétien terre à terre. Mais lorsque, parce que le Seigneur nous dit, aspirez aux choses en haut, occupez-vous d'abord des choses de mon Père et il s'occupera de vous.
Voilà,
donc
ça
veut dire que le royaume de Dieu, qu'est-ce que le royaume? C'est une mentalité, c'est une façon de vivre. Le royaume de Dieu, c'est une façon de vivre en Jésus-Christ.
Ouais.
Et ça, lorsqu'on le vit, lorsqu'on vit ça pendant un moment, ça nous marque.
D'accord. En tout cas, Bruno, je suis très content de te recevoir ici parce que c'est
tout le plaisir pour moi.
Ton témoignage. Mais tu es très atypique parce que c'est pas tout. Parce que quand j'ai. Si tu veux, on va en parler.
Oui.
Quand tu m'as dit ce que tu fais comme métier, là encore, c'est atypique. Parce que tu as une profession assez particulière, je dirais. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Parce qu'on a déjà passé
une heure. Je suis dans le milieu funéraire. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais ben, tu as Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu fais avec les morts? C'est pas ta place.
Oui.
Mais je pourrais dire que. Oui, j'ai ma place. Parce que Dieu, il est là pour tout un chacun. Est-ce que je veux dire que le croquement, il n'ira pas au paradis? Est-ce que je veux dire que celui, le faux royaume, il n'ira pas au paradis? Non, faut pas qu'on s'arrête sur cela. Voilà. Ce que je veux simplement dire, c'est que Dieu nous utilise partout. Et voilà que il m'est arrivé, je crois que j'ai une expérience qui m'a lancé dans ce travail, qui m'a fait prendre ce travail avec d'une autre façon. Je veux dire que c'était pas l'aspect financier, mais c'était l'aspect, amour, l'aspect de ce que je pouvais apporter aux autres qui pouvaient leur être bénéfiques.
Oui.
Et c'est vrai que quand je suis sorti de prison, donc j'ai repris, c'était mon travail, donc j'ai repris cette activité. Mmh. Et c'est vrai que je le fais toujours avec cet amour.
Avec cette passion.
Avec cette passion. Mmh. Et des fois, même quand je me trouve face à la personne sur laquelle que je travaille, sur cette personne, je me dis, Seigneur, est-ce qu'elle a eu le temps de te demander pardon? Alors, en son nom, je te demande pardon pour ses erreurs, pour ses fautes.
Ouais.
Seigneur, éclaire, si... Voilà, éclaire. Enfin, voilà, on dit ne pas prier pour les morts, certes. Mmh. Mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, je sais qu'avec toi, tu es au-dessus de tout.
Oui.
Tu es au-dessus de tout.
Oui.
En tout cas, c'est toujours avec amour que je fais ce travail.
Ah ouais.
Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je fais ce travail avec encore plus de passion parce que je vois, quand je suis maître de cérémonie aussi, quand je fais mes interventions, par la grâce de Dieu, les gens, le retour que j'ai, les gens me disent toujours, Monsieur, vous êtes pasteur. Je dis pourquoi? Je dis non, parce que ce que vous avez dit, les mots, parce que nous, on doit être la vie, on doit porter la vie à ceux qui sont attristés.
Oui, oui.
Donc, je dois apporter des paroles de réconfort selon la parole de Dieu pour que ces gens attristés puissent retrouver cette joie, cette force en Jésus-Christ. Donc, en fait, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris ma mission, tu m'as placé là, c'est pour que je puisse ramener la vie là où la détresse se trouve.
Je peux te comprendre, en fait, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas, qui sont tellement spirituels, qui te disent, mais comment est-ce qu'un chrétien peut être croque-mort, ou bien fausse moyeur, ou bien tout ça.
C'est ça.
Je dis que c'est possible.
Mm-hmm.
Et je dis que même que parfois, c'est pas même, ça va même nous révéler des choses.
Mm-hmm.
En fait, quand on lit la Bible, l'Ecclésiaste dit que vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Mm-hmm. Parce que là, on réfléchit.
Mm-hmm.
Et souvent, j'ai eu l'occasion de faire, peut-être que tu connais, des services à Fort-de-France, là, comment ça s'appelle, la Joyau.
Oui.
La semaine dernière, j'en ai fait un là aussi.
Mmh.
Et j'aime aller faire des services là,
parce
que les gens déjà sont sensibles quand ils sont arrivés à ce stade-là.
C'est
des vivants qui sont restés, la famille, des défunts, qui sont sensibles.
Mmh.
Et chaque fois que j'ai porté un message dans ces moments-là, chaque fois systématiquement, après les gens sont venus vers moi pour me dire, pasteur, vraiment, merci, parce qu'on a été bouleversé par ce que vous avez dit. Parce que les gens sont plus sensibles.
C'est ça.
Tu es peut-être en face de personnes, parce que toi, tu t'occupes peut-être d'un corps que tu essaies d'arranger.
Alors, je me trouve en face des deux.
En face des deux.
Des familles et des défunts.
Des décédés. Que tu essaies d'arranger le visage pour donner un bel aspect. Parce
Que
nous, les vivants qui sont restés, quand on vient voir notre parent décédé, on est moins beau. La plupart des temps, on aime voir cette personne avec un beau visage, on est content, elle est belle, elle est jolie, mais on oublie qui avait ce travail-là. On oublie qui avait ce travail-là.
C'est
une personne humaine, c'est pas une machine.
C'est pas
l'intelligence artificielle qui avait ça, c'est pas ChatGPT qui avait ça, c'est une personne humaine qui avait ça, et ça tu t'en occupes.
Voilà.
Et je trouve ça formidable. Honnêtement, je trouve ça formidable.
Merci.
Sois béni, Bruno.
Aujourd'hui, comme je dis, après tout ce formatage, comme je dis, par la case prison, enfin quand je dis formatage, je veux dire que la parole, l'Esprit de Dieu m'a dit, un jour l'Esprit de Dieu s'est manifesté, m'a dit, je t'enseignerai.
Ah oui.
Et pendant mon parcours en prison, l'Esprit de Dieu m'a enseigné, mais comme jamais.
Oui.
Comme jamais. L'Esprit de Dieu était en permanence en train de m'enseigner, tellement que ma nourriture était la parole de Dieu, la Bible.
Ah oui.
Et aujourd'hui, je suis pasteur, je bénis Dieu. Parce que lorsqu'on m'avait dit, il y a 15 ans, 20 ans de ça, que je serais pasteur, pour moi, ce serait inimaginable.
Oui.
Mais Dieu a permis ce parcours parce que je devais glorifier son nom. Aujourd'hui, je suis en train de glorifier le nom de mon Dieu, du Dieu sauveur, le Dieu qui, comme je dis à tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui sont en prison, qui se disent que, voilà, je peux simplement dire, et je veux vous le dire, parce que ça, on ne l'entend pas.
Oui.
On dit souvent, prison, c'est bas chien.
Oui.
Mais je peux vous dire qu'il y a un peuple de Dieu là-bas.
Mmh.
En prison, il y a un peuple de Dieu. Il y a un peuple de ceux que l'ennemi a utilisés. Et que, arrivant en prison, l'Esprit de Dieu, ils ont envie d'une repentance. Ils ont envie de croire que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Il y a un peuple de Dieu. Parce que je peux vous dire, j'ai déjà été à la bibliothèque Shelcher. Mais la prison, c'est le lieu où j'ai vu le plus de Bibles dans ma vie.
Incroyable.
Et pourtant, je vais dans une église, hein, je vois les bibles, je vois les frères venir. Je peux vous dire en prison.
C'est là qu'il y a une place bible.
C'est là qu'il y a une place bible.
Ah ouais.
Alors, je peux vous dire qu'il y a un peuple de Dieu là-bas.
Mais le Christ dit que j'étais en prison, il m'avait visité. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose là-bas.
Il se passe quelque chose. Ah. Et je vais même dans la dimension où que quand Christ dit, vous m'avez visité, parce que des fois, on peut, c'est pas évident d'aller visiter. Parce que voilà.
Il faut être de tout.
Mais ta visite, c'est ton amour pour eux, ta prière pour eux, ta pensée pour eux.
Oui, oui.
C'est ça ta visite.
Oui.
Quand Christ dit, j'étais en prison, vous m'avez visité, c'est comprendre que ça peut être par le côté physique, mais c'est aussi pour ceux qui ne peuvent pas aller à Ducos voir et prier pour eux, vous dire que vos prières chez vous, en pensant à ce peuple qui est là, qui a soif de Dieu, vos prières seront exaucées parce que j'ai vu beaucoup accepter Dieu dans leur vie. J'ai vu beaucoup venir vers moi me dire, je veux entendre une parole de Dieu. J'ai vu beaucoup venir avec leur Bible me dire, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Je vous dis, je me suis retrouvé comme un médecin. À Ducos, tout le monde, je suis dans le couloir, tout le monde a arrêté. Hey, Dieu ne t'a pas donné un message pour moi. Et hey, voilà, je dois aller comparaître. Quelle prière? Pense à moi de la prière, s'il te plaît, pense à moi. Parce que tout le monde voyait la gloire de Dieu.
Ah oui.
Dans ma vie.
Ah oui, ah oui.
Et je bénis Dieu pour cela, en toute humilité. Je donne à Dieu toute la gloire. Comme je dis, Seigneur, je ne veux rien de moi, mais je veux tout de toi.
Amen.
Tout de toi.
Amen, amen.
Alors j'ai marché avec ce tout de lui en moi.
Bruno, merci beaucoup. Et je persiste, le signe. Hein. Ouais. Tu devrais écrire un livre. Franchement, il faut.
Je pense que Dieu permettra.
Ah oui, ah oui, non, il faut que tu écrives ce livre. Ça va être un moment. Clôture ta bénédiction par ce livre-là qui sera un best-seller.
Amen, amen.
Bruno, merci beaucoup. Je rappelle que tu sors de.
Des Azarlets.
Tu vas aller jusqu'à Azarlets ce soir-là. Je te laisse aller. Mm-hmm. En tout cas, nous avons été heureux de te recevoir.
Eh bien, merci. Mais tout le plaisir est pour moi.
D'accord.
Et puis, merci de m'avoir permis ce soir d'être une bénédiction pour les auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent. Leur dire que nous servons un Dieu très grand. Et c'est le Dieu vraiment, je ne dirais même pas le Dieu de l'impossible, je dis que c'est le Dieu de tout est possible.
D'accord.
On puisse que se dire ça, je sers un Dieu de tout est possible.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci.